professeur Blanc, que j'invite à me rejoindre sur scène, donc pour parler ensemble d'actualité, des avancées de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, pour commencer. Et nous parlerons aussi de la maladie à corps de Lévy, une maladie sur laquelle vous êtes particulièrement investi à Strasbourg. Professeur,
merci beaucoup.
Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Fondation de m'avoir invité. Merci beaucoup. On m'a demandé de traiter les actualités sur la maladie d'Alzheimer, et alors j'ai ajouté les actualités sur la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lévy parce que ce sont vraiment les deux principales maladies en France qui sont responsables de troubles cognitifs, ou qu'on peut dire aussi de troubles neurocognitifs ou de troubles cognitifs et comportementaux. La première, la maladie d'Alzheimer, représente environ 900 000 patients, ce qui est beaucoup, hein, près d'un million de patients. La seconde représente actuellement probablement près de 200 000 patients. Donc à elle seule, ces deux maladies, c'est plus d'un million de patients en France. Plus d'un million de patients en France, en plus à des stades qu'on va qualifier d'évolués. Il y a toute une part des patients qui sont à des stades très légers, qu'on appelle le stade prodromal, qui ne sont pas décomptés ici et qui sont pourtant réellement atteints. Alors moi, je suis le professeur Blanc, je suis responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, et je m'occupe aussi de l'unité cognitivo-comportementale à l'hôpital de la Robertsau, au pôle de gériatrie. Et je fais partie du laboratoire iCube, qui est un des grands laboratoires de Strasbourg, où on travaille beaucoup justement sur ces troubles cognitifs et comportementaux. Alors, la question de ces maladies neuroévolutives, cognitives, c'est aussi la question de leur évolution. Alors, comme vous le voyez sur cette diapo, est-ce que ça marche ? Oui. Imaginons un patient qui commence sa maladie vers l'âge de 80 ans. Alors là, j'emploie un mot qui est très connoté, qui est le mot de démence. Mais ce mot, en réalité, du point de vue médical, ça veut simplement dire que c'est des patients qui ont des troubles cognitifs et que ces troubles cognitifs ont un impact sur leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus conduire ou ils ne peuvent plus téléphoner du fait de leurs difficultés. C'est simplement ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec le mot démence en français commun, qui voudrait dire folie ou autre chose. Là, c'est vraiment simplement cette définition très simple, trouble cognitif avec des conséquences. Il se trouve que, imaginons un patient qui commence à 80 ans, par exemple une maladie d'Alzheimer, eh bien, 5 ans avant, il aura déjà des troubles cognitifs légers. Troubles cognitifs légers, ça veut dire qu'il aura des troubles cognitifs, mais ça n'aura pas d'impact sur son quotidien. Et environ 10 ans avant le trouble cognitif léger, donc vers l'âge de 65 ans, le patient aura une plainte cognitive, mais nous ne serons pas capables de détecter un trouble à ce moment-là. Il n'y a que le patient qui sait qu'il y a vraiment quelque chose, nous ne le savons pas ou nous ne pouvons pas le mesurer. Et encore avant, probablement encore 5 à 10 ans avant, vous avez les lésions qui se sont installées. Et donc, vous voyez que cette maladie, la maladie d'Alzheimer, mais aussi la maladie à corps de Lévy, mais restons sur la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui dure très longtemps, puisque environ 20 ans avant que les symptômes évidents apparaissent, eh bien, il y a déjà des lésions, et la maladie va évoluer encore pendant 15 ans, ce qui fait que c'est des maladies très longues, et si la personne vit suffisamment longtemps, ça peut durer 30, 35 ans, voire 40 ans. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'on a l'impression que souvent ces maladies, c'est quelque chose de très court, sur quelques années, mais en réalité, c'est là depuis très longtemps. La deuxième chose qui me semble importante, c'est les conséquences pour les personnes qui sont au quotidien avec les patients, ce que nous, dans notre jargon, on appelle les aidants, ou l'aidant principal. L'aidant principal, c'est celui qui est au quotidien avec la personne. Et vous voyez sur cette diapositive que le problème principal, c'est le temps passé. Alors, c'est en anglais, mais je vous le traduis. Ici, par exemple, c'est un patient qui a un trouble cognitif léger. Eh bien, l'aidant principal indique, dans cette étude faite en Scandinavie, l'aidant principal indique qu'il va utiliser 2 heures de son temps pour aider la personne qui pourtant n'est pas encore vraiment dans la maladie, elle est simplement à un stade qu'on dit prodromal. Et puis au fur et à mesure que la maladie est là, alors là au stade léger, puis au stade modéré, puis au stade sévère, vous voyez que ça va être 3 heures, puis 5 heures de temps, puis 7 heures de temps, puis environ 9 heures de temps au quotidien passé pour l'aidant principal avec le patient atteint de maladie d'Alzheimer ou maladie à corps de Lévy ou autre. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, ça touche non seulement le patient, mais ça touche aussi la famille, les proches, en tout cas souvent une personne principalement, très investie, qui va passer un peu de temps, puis beaucoup de temps, puis énormément de temps pour gérer la maladie au quotidien chez soi. Et ça, je pense que c'est important d'avoir conscience aussi. Alors, quelle est la proportion de patients atteints de maladie d'Alzheimer ? La proportion atteinte de maladie d'Alzheimer, en 2010, c'était environ 1 million de personnes, atteints de troubles neurocognitifs ou troubles neuroévolutifs cognitifs, 1 million de personnes en 2010, et on estime qu'il y aura 1,75 million en 2030, hein, donc quasiment doublé. Et regardez la proportion d'hommes et de femmes, donc les hommes, en 2030, on sera à peu près à 600 000, tandis que les femmes, eh bien, on sera environ à 1 100 000. Voyez ? Donc, très clairement, ça c'est un autre point, mais on le sait depuis longtemps, la maladie d'Alzheimer, mais aussi la maladie à Cordelévy, touche plus les femmes que les hommes. Et c'est important de l'avoir en tête, il y a certainement plein de raisons à cela. Alors, la recherche, donc ça c'était un peu pour que vous ayez les idées claires, je pense, par rapport à ces maladies. Sur la recherche, je pense qu'il y a deux points essentiels sur la maladie d'Alzheimer, puis après j'aborderai la maladie à Cordelévy. Le premier point, c'est qu'on va pouvoir améliorer le diagnostic. Alors, on avait jusqu'à présent de grandes capacités de diagnostic grâce à la ponction lombaire, hein, puisque dans la ponction lombaire, on peut doser les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Jusqu'à présent, on était empêché de faire d'autres choses, notamment de l'imagerie comme la scintigraphie, et on devrait avoir l'autorisation, si tout se passe bien, on devrait avoir l'autorisation pour utiliser l'imagerie. Alors, juste un petit mot avant de vous montrer l'imagerie, pour vous dire que dans la maladie d'Alzheimer, il y a trois acteurs principaux. Les trois acteurs principaux à l'intérieur du cerveau, c'est quoi ? C'est 1, les plaques amyloïdes, 2, les dépôts de protéines tau, vous voyez que tau s'écrit T-A-U, dépôt de protéines tau, et 3, l'activation microgliale, c'est-à-dire l'inflammation. Donc l'inflammation, les plaques amyloïdes et la protéine tau. Et donc, évidemment, on peut maintenant voir, grâce à la scintigraphie, ce qu'on appelle la TEP, ou tomographie par émission de positons, on peut voir les plaques amyloïdes au niveau cérébral en utilisant le PET amyloïde. Donc voici quelques exemples. Ici, ce sont 3 patients atteints de maladie d'Alzheimer. Il y a une échelle de couleurs sur la gauche, et au plus c'est rouge, au plus c'est qu'il y a des plaques amyloïdes. Vous voyez que chez ces patients, par exemple chez ce patient, il y a des plaques amyloïdes à l'avant du cerveau. Chez ce patient, il y a des plaques amyloïdes à l'avant du cerveau, mais aussi à l'arrière du cerveau. Ici, il y a plutôt d'un côté du cerveau des plaques amyloïdes. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de voir quelle est l'intensité de l'atteinte amyloïde et de favoriser le diagnostic. A l'inverse, un patient qui a une maladie frontotemporale, alors il y a une partie qui est un peu colorée, mais c'est la substance blanche, donc il ne faut pas qu'on la considère. Mais le reste est bleu. Bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas de fixation, donc c'est bien un patient qui n'a pas de maladie d'Alzheimer puisqu'il n'a pas de plaque amyloïde. Donc ça, on devrait y avoir accès, si tout va bien, d'ici la fin de l'année. Ce à quoi on n'aura pas encore accès, parce qu'il n'y a pas encore d'autorisation, c'est la même scintigraphie, mais pour la protéine tau. La protéine tau, c'est l'autre acteur de la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez ici un exemple de patient atteint de maladie d'Alzheimer, où on voit que là, il y a des dépôts de protéine tau à l'arrière du cerveau. On parle des régions pariétales, essentiellement, mais aussi dans les régions temporales. Et ça, c'est très important aussi, parce que cette protéine tau est vraiment corrélée à l'évolution de la maladie. C'est-à-dire, au plus il y a de la protéine tau, au plus la maladie évolue, et au plus, finalement, les neurones sont atteints et lésés. Hein, donc, on espère avoir ça un jour dans notre quotidien. Là, pour l'instant, on n'y a accès qu'à travers la recherche, y compris sur Strasbourg, mais c'est qu'avec la recherche qu'on a accès à ce genre de choses. Alors, le point qui me semble vraiment capital dans ma présentation aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est que on a eu une nouvelle il y a à peine 2 semaines qui nous a surpris et agréablement surpris, c'est qu'un nouveau médicament qui s'appelle le lecanemab aurait une efficacité faible, mais une réelle efficacité dans la maladie d'Alzheimer. Alors ce lecanemab, voyons un petit peu, alors l'équivalent c'est l'aducanumab, voyons un petit peu ce qu'il fait sur les plaques amyloïdes. Là c'est des vieilles publications, pardon. C'est des vieilles publications, mais on a la même chose avec le lecanemab, et celui-là est plus, nous permet de mieux voir. Vous voyez ici des patients qui ont été traités, alors qu'il n'est avant traitement, après traitement. Donc avant traitement, après traitement, là il n'y a pas de différence sur les plaques amyloïdes parce que ici c'était du placebo, c'est-à-dire que le patient avait des injections régulières, mais en réalité ça n'était pas le traitement. À l'inverse, d'autres patients qui ont été traités pendant un an, et au bout d'un an, on voit qu'il y a, pour chacun de ces patients, alors à 3 mg kilo, des doses plus élevées, 6 mg kilo, encore plus élevées, 10 mg kilo, une nette diminution des plaques amyloïdes, voire pour certains, une disparition des plaques amyloïdes. La question qui se posait, c'était de savoir si on fait disparaître les plaques amyloïdes, est-ce que ça va aider quand même du point de vue clinique? Et jusqu'à présent, les résultats étaient plutôt négatifs, avec beaucoup de traitements. Et là, pour la première fois, avec plusieurs traitements, mais en particulier le lecanemab, puisque le lecanemab qui est ici, c'était une phase 3, c'est-à-dire vraiment on regardait, il y a plusieurs phases dans la recherche thérapeutique, et on regardait vraiment l'efficacité clinique du traitement, et ils nous disent, mais on n'a pas les résultats complets, ils nous disent qu'il y a effectivement une efficacité à la fois du point de vue cognitif, donc sur les fonctions cognitives, la mémoire, etc., mais aussi une efficacité du point de vue fonctionnel, c'est-à-dire dans le quotidien du patient. Attention, avec le lecanemab, il n'y a pas une amélioration. Par contre, avec le lecanemab, contrairement par rapport aux patients qui étaient dans le groupe placebo, il y a une moindre diminution, c'est-à-dire la diminution continue, mais elle était moins importante avec le lecanemab que dans le groupe placebo. Et ça, c'est la première fois depuis 20 ans qu'on a ce type de résultat. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il va falloir voir pour quel type de patient, par contre, on pourra le donner. Si il est autorisé en France et en Europe. Pour l'instant, on ne sait pas. Le problème de ces médicaments, ce sont les effets secondaires sur le cerveau et notamment une proportion non négligeable d'œdèmes cérébraux avec le lecanemab. Alors là, il peut être important comme celui-ci, là vous voyez cette tache blanche. Il peut être plus discret comme ici ou très discret comme ici. Et aussi des micro-hémorragies, donc c'est ces petits points noirs, enfin ce point noir surtout là, qui était apparu sous traitement. Alors il se trouve que dans la maladie d'Alzheimer, il y a quand même, quand on ne prend pas de traitement type lecanemab, l'apparition parfois d'œdème cérébral et parfois de micro-hémorragie, mais cette proportion est bien moindre qu'avec les traitements, puisque avec les traitements, si vous voulez, c'est la proportion ici, placebo, il y en avait 210, avec le traitement 669, donc il y a trois fois plus d'effets secondaires dans le groupe traité que dans le groupe placebo. Donc ce ne sont pas des traitements anodins, donc ça nécessitera qu'il y ait une surveillance très rapprochée des patients si on peut avoir accès à ce médicament en France, ce qu'on peut souhaiter, je pense. Alors, un petit mot sur la maladie à corps de Lévy, qui est l'autre maladie importante qui concerne à peu près 200 000 patients en France. Pour vous dire que c'est un peu le même principe que dans la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il y a des troubles cognitifs légers, qu'il y a une plainte cognitive subjective, souvent très longtemps avant, puis des lésions qui s'installent. Mais dans la maladie à corps de Lévy, se rajoutent d'autres symptômes. Et dans les autres symptômes, il y a des symptômes physiques, dont le ralentissement physique qui apparaît progressivement, des troubles que je vais qualifier de neuropsychiatriques, c'est-à-dire des troubles du comportement, avec des patients qui peuvent faire volontiers des dépressions, qui peuvent avoir volontiers des hallucinations, ou même qui peuvent faire un délire, et qui peuvent commencer leur maladie par un délire. Et puis des troubles qu'on dit neurovégétatifs, c'est-à-dire de la constipation, le nez qui coule mais de façon anormale, la tension qui baisse quand on se lève et qui s'accompagne donc de vertiges. Il y a plein d'autres symptômes. Les autres symptômes, ça ce sont les critères de recherche au stade prodromal auquel j'ai pu participer, mais les autres symptômes, ils sont là. Ce sont les fluctuations cognitives, c'est-à-dire des moments où le patient va bien. C'était le cas d'une patiente que j'ai vue hier qui allait très bien, mais que j'avais vue quelques mois auparavant qui allait très très mal. Donc vraiment des grosses différences d'un moment à l'autre. Deuxième chose, des hallucinations visuelles, j'en ai déjà parlé. Troisième chose, des troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est-à-dire ce sont des patients, certains patients, pas tous, qui la nuit vont faire des cauchemars ou qui vont se mettre à bouger, à avoir des mouvements, à battre des pieds ou autre, qu'on voit effectivement dans la maladie à corps de Lévy. Et puis ce sont des patients qui vont développer aussi un ralentissement physique sous la forme d'un syndrome parkinsonien. Alors souvent, ce n'est pas le syndrome parkinsonien important comme on peut le voir dans la maladie de Parkinson, c'est beaucoup plus discret, c'est même tellement discret parfois que ça ne se voit pas et il n'y a que le médecin qui examinera son patient qui pourra bien le voir. Alors, bon, on a beaucoup travaillé, nous, sur Strasbourg, sur la maladie à corps de Lévy, notamment sur une cohorte nationale qui est la cohorte Memento, et on a montré, par exemple, récemment, que dans cette maladie à corps de Lévy, non seulement il y avait très souvent de la dépression, là, c'est les patients atteints de maladie à corps de Lévy au stade prodromal, donc c'est au tout début, où ils ont à peine des troubles cognitifs, la moitié des patients ont des symptômes de dépression, le quart des patients ont une authentique dépression, une vraie dépression, donc la dépression est vraiment un symptôme très fréquent de la maladie à corps de Lévy. Mais il y a aussi d'autres problèmes de comportement, une anxiété, parfois une anxiété envahissante, très très forte. J'étais en téléconsultation ce matin, il y avait une des patientes qui avait vraiment une grosse anxiété qu'on n'arrivait pas à traiter convenablement. Et puis une apathie, c'est-à-dire un désintérêt, une sorte de démotivation globale qu'on peut voir dans la maladie d'Alzheimer, mais qu'on voit fréquemment aussi dans la maladie à corps de Lévy. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a essayé de comprendre pourquoi il y avait ces fluctuations chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy, et ce qu'on suspecte, c'est qu'il puisse y avoir un problème d'interrupteur. Un problème d'interrupteur, c'est-à-dire que là, vous m'écoutez, normalement tout le monde m'écoute, et ça veut dire que vous avez, comment dire, votre attention, des réseaux de l'attention qui sont en route. Et puis à un autre moment, vous allez faire autre chose. Par exemple, vous allez penser à quelque chose, ou vous allez vous remémorer un fait, et donc il va falloir changer de réseau de votre cerveau. Il y a les réseaux attentionnels, il y a les réseaux de la mémoire. Et pour passer de l'un à l'autre, eh bien, il faut une sorte d'interrupteur. Et ce qu'on pense, nous, avec notre groupe iCube, et notamment avec donc Elena Chabran, qui est maître de conférence au laboratoire, c'est qu'il y a probablement un problème d'interrupteur, c'est-à-dire l'interrupteur qui passe d'un réseau à l'autre sera un peu bloqué, et si on reste bloqué sur le réseau attentionnel alors qu'on devrait parler de mémoire, eh bien ça peut avoir des conséquences fortes et ces fameuses fluctuations. Un autre point, et je trouve que là c'est intéressant du point de vue global, non seulement pour la maladie d'Alzheimer mais aussi pour la maladie à corps de Lévy et aussi finalement pour la maladie de Parkinson, c'est l'origine de ces maladies. Et là, Morgan Linhart, qui a travaillé avec nous, et plusieurs étudiants d'un DU très intéressant qui est le DU MA2, qui est un diplôme interuniversitaire pour les médecins sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, eh bien, elle a fait une revue de la littérature sur la question des infections qui pourraient favoriser l'émergence de ces maladies neuroévolutives. Et elle s'est intéressée à la maladie à corps de Lévy en particulier, c'était en anglais DLB pour Dementia with Lewy Bodies, et la synthèse, si vous voulez, de sa revue de la littérature, c'est la suivante. C'est que les lésions de la maladie à corps de Lévy, qui sont en fait des corps de Lévy, qui contiennent une protéine qui est la synucléine, eh bien, ce qui est particulier dans cette synucléine, c'est que c'est aussi un peptide ou une protéine qui ressemble à des peptides ou des protéines qui vont lutter contre les bactéries. Donc, ils vont lutter contre toutes les bactéries qu'on peut trouver dans le cerveau ou qu'on peut trouver dans le corps. Et ce sur quoi on s'interroge, c'est que s'il y a dépôt de corps de Lévy, c'est peut-être pas parce que c'est complètement toxique, mais peut-être parce que c'est pour se défendre contre certaines bactéries qu'on aurait rencontrées longtemps auparavant. Et donc ça sous-entendrait que ces bactéries ou ces virus rentreraient par un endroit, et on suppose que ces bactéries ou virus pourraient rentrer par les voies olfactives, donc par le nez, ou alors pourraient rentrer par les voies intestinales, ou bien donc par la bouche, ou pourraient rentrer par les voies urinaires. Alors, Morgan Linhart, mais Alix Ravier qui est dans la salle et qui va vous présenter d'autres choses tout à l'heure, présupposait, si vous voulez, que cette entrée ensuite migrait jusque vers le cerveau lui-même et allait, au bout du compte, faire développer les corps de Lévy et aussi permettrait de lutter contre des infections. Bon, ce sont des suppositions, mais c'est des suppositions qui sont intéressantes. Et peut-être dans un contexte particulier, peut-être dans un contexte peut-être de pollution, peut-être dans un contexte immunitaire particulier, aussi dans un contexte génétique, avec des gens qui seraient plus susceptibles d'eux et d'autres qui seraient moins susceptibles d'eux en fonction de leur contexte génétique. Voilà, j'ai presque fini. Juste pour vous dire quand même un petit mot pour les essais thérapeutiques dans la maladie à corps de Lévy. La maladie à corps de Lévy, on a la chance d'avoir aussi un essai thérapeutique positif, mais à un degré moindre, puisqu'on était cette fois-ci en phase 2, donc il va falloir qu'ils fassent la phase 3. Ce sont des collègues nord-américains qui ont montré que le néflamapimod, qui agirait, si je devais simplifier les choses, sur une zone du cerveau qu'on appelle le noyau de Meynert, qui est une zone importante puisqu'elle sécrète l'acétylcholine, donc qui permettrait une meilleure sécrétion de l'acétylcholine, qui est une hormone importante pour le cerveau, eh bien, ils ont montré que dans la maladie à corps de Lévy, en phase 2, il y avait un intérêt de ce néflamapimod. Ça n'est pas suffisant comme démonstration, il faut attendre la phase 3, mais on a de grands espoirs sur un potentiel nouveau traitement dans la maladie à corps de Lévy. Donc en conclusion, vous l'avez compris, la maladie d'Alzheimer, 900 000 personnes en France, la maladie à corps de Lévy, 200 000 personnes en France. Je ne vous ai pas parlé de la maladie frontotemporale, mais c'est une autre maladie neuroévolutive cognitive, c'est 7 000 personnes en France. Eh bien, tous ces patients-là, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ils ont besoin que la recherche se développe, et fort heureusement, il y a des espoirs très sérieux pour maladie d'Alzheimer avec le lecanemab, peut-être une autorisation de traitement en France en 2023, on pourrait l'espérer en tout cas, sous condition évidemment. La nécessité par contre de plus d'essais thérapeutiques dans la maladie à Cordes-Lévis, même si le néflamapimode a donné des résultats intéressants. Et je voudrais remercier vraiment la Fondation Recherche Alzheimer qui finance une de nos thèses sur les biomarqueurs dans la maladie d'Alzheimer et l'imagerie dans la maladie à Cordes-Lévis. Et puis j'aimerais aussi remercier France Alzheimer, la Fondation Vaincre Alzheimer et Alsace Alzheimer, les deux précédents pour la recherche, et puis Alsace Alzheimer pour le travail au quotidien et la collaboration forte que nous avons et qui permet d'apporter plus de qualité de vie aux patients et aux familles. Voilà, je vous remercie.
Beaucoup. Merci beaucoup, professeur. J'ai juste une petite question à vous poser avant de poursuivre avec votre collègue. Pour les personnes qui seraient intéressées, comment intégrer les cohortes pour faire partie des recherches ?
Alors, il est tout à fait possible soit de faire partie de cohortes de recherche, soit de participer aux essais thérapeutiques. Le mieux, c'est de contacter notre secrétaire recherche, Madame Gabrielle Huc. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 03 88 11 58 58. Voilà, donc si vous ou votre famille aurez une maladie d'Alzheimer ou une maladie à Cordes-Lévis ou serez suspect de quelque chose et si vous souhaitez intégrer la recherche, c'est tout à fait possible. 11 58 58, voilà.